Cette semaine, j'ai eu l'impression d'être assis dans un avion en pleine turbulence. Vous savez, ce moment où les masques sont en train de tomber, où votre voisin récite sa prière et que l'autre voisin essaye d'appeler sa femme. Et où, d'un seul coup, le pilote reprend le contrôle, l'appareil se stabilise, le soleil réapparaît au-delà des nuages, et puis l'hôtesse vous apporte du champagne en souriant comme si rien ne s'était passé. Eh bien, c'est exactement comme ça que ça s'est déroulé cette semaine. Lundi matin, après l'échec des négociations de paix, le pétrole est à 104 $. Trump déclare à la presse, avec l'élégance diplomatique qu'on lui connaît, qu'il se fout royalement de savoir si l'Iran revient à la table des négociations ou pas, et la marine américaine bloque le détroit d'Ormuz. Vendredi soir, le S&P 500 est à 7126, record absolu, Nasdaq 24 468, record absolu, le pétrole est à 83 $, le VIX est à ses niveaux d'avant-garde et une humeur générale qui oscille quelque part entre la béatitude collective, l'amnésie et l'euphorie totale. En 5 jours, le monde avait changé, ou du moins le monde de Wall Street avait décidé qu'il avait changé. Ce qui, dans l'univers des marchés financiers, revient plus ou moins exactement au même. Bienvenue dans ce Swiss Bliss, je suis Thomas Bayet et nous sommes le samedi 18 avril 2026. Et cette semaine, les marchés ont inventé quelque chose de nouveau, le bull market de guerre en anticipation d'un accord de paix qui n'est pas encore signé, mais qui devrait l'être ce week-end, juste avant que Trump prenne l'avion pour Oslo, parce que qui de mieux que lui-même pour recevoir le Nobel, autant le lui donner tout de suite.
Cette émission vous est présentée par SwissQuote.
Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit.
Reprenons depuis le début parce que cette semaine mérite quand même qu'on la raconte dans l'ordre. Hein. Donc dimanche soir dernier, 23h, heure de Washington, J.D. Vance vient de quitter Islamabad après 21h de négociations. Il ressort de la salle avec la tête de quelqu'un qui vient de perdre au poker, mais qui raconte à tout le monde que l'autre a triché. Sa déclaration officielle tient en une phrase: nous repartons avec une proposition finale et notre meilleure offre. En langage diplomatique poli, ça veut dire il ne s'est rien passé, rien du tout, le néant habillé en conférence de presse. Lui, Trump, ne peut pas rester sans rien faire, bien sûr, c'est cliniquement prouvé. Alors il annonce dans la foulée un blocus naval du détroit d'Ormuz effectif immédiat. Tous les navires, toutes les nationalités, tous les pavillons, et pour couronner le tout, il lâche à la presse l'air de rien: j'en ai rien à foutre s'ils reviennent négocier ou pas. 50 ans de politique étrangère américaine au Moyen-Orient, des milliards et des milliards et des milliards de dollars, plusieurs guerres, des milliers de morts, 21 heures de négociations à Islamabad, et on termine sur un « j'en ai rien à foutre » balancé sans la moindre hésitation, ni même la moindre citation qui pourrait éventuellement finir dans les livres d'histoire. Churchill avait dit « we shall fight on the beaches » et Roosevelt avait dit « a day which will live in infamy ». Trump a envoyé balader tout le monde. Mais mardi, mercredi, le scénario a basculé. Trump annonce que les Iraniens l'ont appelé en secret, pas de communiqué conjoint, pas de date fixée, pas de cessez-le-feu signé, juste un homme qui dit qu'on l'a appelé et qu'ils veulent vraiment un accord de paix, à tout prix. Vous ajoutez à ça trois pétroliers qui traversent le détroit sans se faire intercepter par la Navy la plus exceptionnelle de la planète, mais peu importe, et le marché fait ce qu'il sait faire de mieux, il explose. Et vendredi, acte final, ou ce qu'on espère être l'acte final, le début de l'accord de paix, eh bien, le ministre iranien des Affaires étrangères publie sur X que le détroit d'Ormuz est complètement ouvert pour toute la durée du cessez-le-feu Liban-Israël. Trump le confirme, il dit que la transaction avance bien et que la plupart des points sont déjà négociés et que l'accord sera conclu très rapidement. C'est la 13e fois ou la 14e qu'il annonce la fin d'une imminente du conflit. Et visiblement, sur ce que j'ai lu ces dernières heures, le coût de l'uranium, c'est pas très clair encore. Mais bon, les médias américains s'attendent à une signature ce week-end, parce que oui, c'est toujours le week-end qu'il se passe des trucs. Enfin, il se passe des trucs le week-end depuis Trump en tous les cas. Et comme d'habitude, les détails sont dans les petits caractères que personne ne lit dans l'euphorie générale. Le détroit est ouvert sur l'itinéraire coordonné défini par l'organisation portuaire iranienne. Donc il reste potentiellement des mines côté iranien. Les assureurs refusent toujours de couvrir les navires et la Navy maintient son blocus des ports iraniens. Et le cessez-le-feu expire le 26 avril. Mais bon, on est quand même passé de la guerre totale et le pétrole à 200$ à l'accord quasi signé et le baril à 83$. Et en une semaine, sur la parole d'un homme qui a raté ses 12 premières annonces de fin de conflit, et le marché, lui, a décidé que la 13e serait la bonne, ou peut-être la 14e. Comme on dit dans les salles de trading, les marchés bougent plus sur les mots que sur les faits. Traduction libre, on célèbre la victoire avant que le match, la fin du match ait été sifflé. Mais bon, on sait ce qu'on fait de mieux, et comme on le sait, selon les livres d'histoire, que les guerres n'ont jamais impacté durablement les marchés, pourquoi perdre du temps à remonter et battre les records? Oui, parce que les chiffres cette semaine sont tout simplement hallucinants. Lundi, le S&P ouvre en baisse de 0,8%, c'est normal, c'est logique, c'est défendable. Et puis le reste de la semaine s'est transformé en feu d'artifice permanent. Vendredi soir, le S&P 500 ferme à 7126 points, record absolu de clôture, troisième record en trois séances consécutives. Le Nasdaq Composite enchaîne sa 13e séance de hausse consécutive, sa plus longue série depuis janvier 1992. 34 ans. Il faut quand même laisser résonner ce chiffre dans nos têtes. La dernière fois que le Nasdaq avait fait ça, Bill Clinton venait d'arriver à la Maison Blanche, Internet n'existait pas encore pour le grand public et personne n'avait entendu parler d'un certain Jeff Bezos. Le Dow Jones s'inscrit son plus haut niveau depuis fin février, le Russell 2000, les small caps bat lui aussi un record historique, Tokyo fait pareil, Séoul fait pareil. Pendant 5 jours, la planète financière n'a fait qu'une chose, monter et battre des records. Et les Magnificent Seven, eh ben, en 8 séances de trading, ces 7 titres ont collectivement récupéré 2510 milliards de dollars de capitalisation boursière, le record absolu sur une telle période courte. Leur capitalisation cumulée dépasse désormais 22 000 milliards de dollars. Alors pour vous donner une idée, c'est à peu près le PIB de l'Union Européenne et des États-Unis réunis sur cette boîte. Nvidia est passé de 164$ à 200$ depuis le 30 mars. Intel a pris 60% sur la même période. L'ETF des Magnificent Seven avait été en sortie nette pendant tout le début de l'année. Et le 1er avril, ce n'est pas un poisson d'avril, les flux sont redevenus positifs et depuis, les inflows s'accumulent. La grande question que tout le monde pose, mais que peu veulent vraiment entendre, c'est est-ce que fondamentalement, quoi que ce soit a changé depuis 3 semaines? La paix a été signée? Non. Bon, d'accord, elle sera signée ce week-end, mais pour l'instant, non. L'inflation a disparu? Absolument pas. Le pétrole est revenu en dessous des 70$? Non plus, il est encore à 83. Alors le marché anticipe. Il anticipe les anticipations. Ce qui compte, c'est pas ce qui va se passer, c'est ce que les investisseurs pensent qu'il va se passer. Et cette semaine, tout le monde a pensé que le monde était optimiste, et qui, ce qui est une raison donc tout à fait valable pour monter, jusqu'à que ce ne soit plus vraiment une raison valable. On sait tous qu'après la pluie, le beau temps, et que ça ira mieux demain. Trump va finir par partir un jour, le baril sera à 45$ et le prix du litre du sans-plomb sera à 1,12 parce que l'État n'aura plus vraiment envie de taxer le pétrole. Pendant qu'on regardait Trump troller l'Iran et l'Iran troller Trump sur les réseaux sociaux, il se passait quand même des choses très concrètes du côté des entreprises et les nouvelles étaient globalement bonnes. On a eu Goldman Sachs qui a ouvert le bal en début de semaine avec des chiffres qui méritaient une standing ovation. Bénéfice net meilleur qu'attendu, bénéfice par action meilleur qu'attendu. Le trading action a livré le meilleur trimestre de l'histoire. Le financement au hedge fund cartonne, l'investissement banking a cartonné, plus 48%. Et malgré tout ça, le titre est terminé en baisse parce que le fixed income et consorts a reculé 10%. Leçon numéro 1 de la première saison des résultats 2026, il ne suffit pas d'être excellent dans les 6 divisions sur 7, il faut être parfait. Dans toutes, partout. JP Morgan, bénéfice net en hausse de 13%, bénéfice par action qui dépasse de 8% les attentes, impeccable, le titre recule légèrement quand même, parce que quand vous battez les attentes et que le marché n'en a rien à faire, c'est que les bonnes nouvelles sont déjà dans les prix, on l'a vu plusieurs fois cette semaine. Citigroup, carton plein avec bénéfice net en hausse de 42% et revenu en hausse de 14%, un début d'exercice exceptionnellement solide selon le patron de la boîte. Le chaos géopolitique, c'est leur fonds de commerce, et ils ne s'en cachent pas. Ils vont faire quoi après la paix? C'est la grande question qu'on peut se poser aujourd'hui. Wells Fargo profite en hausse de 15%, comme les attentes, mais c'était pas assez, le marché est très exigeant. Bank of America affiche une hausse de 25% du bénéfice par action, Morgan Stanley 29%, ce qui bat les attentes de 13%, BlackRock est champion du monde, et il gagne toujours à la fin comme dans Starsky et Hutch. Et puis, on a eu aussi le moment Netflix, parce que tout le monde attendait Netflix, et Netflix a quand même réussi à décevoir dans un marché euphorique. Le titre chutait de 9,7% après des prévisions de marge décevantes pour le deuxième trimestre et l'annonce du départ de Reed Hastings, le cofondateur. Preuve quand même que dans un bull market record, il reste possible de faire une mauvaise journée si vous dites les mauvaises choses au mauvais moment. Et puis il y a ASML. ASML qui a le monopole de la technologie la plus importante pour le secteur des semi-conducteurs. Le carnet de commandes qui déborde, des chiffres spectaculaires, un CEO qui s'emballe tellement ça va bien. Mais le titre perdait quand même 4% le jour de l'annonce parce que c'était dans les prix. Vous commencez à comprendre la logique des marchés cette semaine? Tout ce qui est bon est dans les prix et tout ce qui dépasse les attentes ne dépasse pas assez. Mais tout ce qu'on ne sait pas encore nous laisse penser que ça sera pas mal. L'anticipation, toujours l'anticipation, c'est pour ça que vous avez toutes les boîtes qui n'ont pas publié, qui ont monté beaucoup plus que celles qui ont publié. Parlons maintenant de ce qui est peut-être le mouvement le plus spectaculaire de la semaine, et le moins médiatisé parce que tout le monde regardait le détroit d'Hormuz. C'est le secteur du software qui a vécu sa meilleure semaine depuis octobre 2001, 25 ans que c'était plus arrivé. L'ETF IGV qui regroupe les grandes valeurs logicielles, des logiciels, a gagné 16% en 5 jours, et ce malgré l'annonce par Anthropic d'un nouveau produit Cloud Design qui pourrait bien remplacer Adobe et ses copains. Mais hier, c'était tellement la fête au village que l'on n'était que très peu réceptif à ces histoires de grands remplacements. Et oui, vous avez vu, les temps changent. Ce qu'il faut comprendre sur ce rebond, c'est son origine. Depuis l'automne dernier, le secteur software était sous pression permanente pour une raison simple et terrifiante. L'IA allait tuer les logiciels. Chaque nouvelle version de modèle Anthropic ou OpenAI déclenchait un sell-off. L'IGV avait perdu 27% depuis son plus haut de septembre 2025. Et là, en une semaine, le marché a changé de narratif. La conclusion collective est désormais la suivante. J'ouvre les guillemets, les boîtes d'IA les plus avancées utilisent elles-mêmes les grands logiciels pour faire tourner leur activité. Je ferme les guillemets. Donc l'IA qui remplace le software, c'est peut-être une thèse qui était un poil exagérée. Enfin, peut-être. Et si c'est peut-être, c'est que c'est peut-être l'opportunité du siècle. Beaucoup de conditionnels dans tout ça. Du côté semi-conducteur, le SOX est au plus haut de tous les temps, avec 35% de performance depuis son point bas du 30 mars. 35% en 2 semaines et demie. SK Hynix a touché un record absolu, Samsung a suivi, et Intel, le veau de ces dernières années, a pris 68% sur la même période. 68%, et vous pouvez chercher. Tout le monde dit que c'est encore pas cher à ce niveau-là. Alors je sais pas si c'est courageux ou irresponsable, mais quand même, chapeau. Chapeau pour l'audace. La thèse est assez simple et tout le monde la partage. L'IA a besoin de puces encore et toujours, toujours plus de puces. Des puces, encore des puces et toujours des puces. Et dans un monde où la demande surpasse l'offre, selon le PDG d'ASML lui-même, les fabricants de semi-conducteurs ont encore de beaux jours devant eux. C'est peut-être naïf, et c'est peut-être vrai. Les deux peuvent coexister. Mais la vraie star de la semaine, le vrai market mover numéro 1 de la semaine, c'est bien sûr le pétrole, et son comportement mérite qu'on s'y arrête 2 secondes. Lundi matin, on avait donc un WTI à 104$, 20% du pétrole mondial qui était bloqué, l'Agence internationale de l'énergie qui parle du choc pétrolier le plus grave de l'histoire, le FMI qui révise ses prévisions à la baisse. Et vendredi soir, le WTI est à 83$, le Brent à 90$. En 5 jours, le baril a perdu 19% sur le WTI. Le seul fait réel qui justifie ce mouvement, c'est simplement le ministre iranien des Affaires étrangères qui a publié un tweet. Un seul tweet, hein, pas un traité. Pas de pétroliers qui ont repris la route en file indienne au travers du détroit d'Hormuz. Enfin, pas pour l'instant. Un tweet et 19% de baisse en 5 jours. Pour être parfaitement honnête, les bateaux qui avaient passé le détroit en début de semaine sans se faire intercepter avaient déjà mis un peu le feu aux poudres. La Navy la plus exceptionnelle de la planète avait raté 3 pétroliers de 330 mètres chacun et le marché avait décidé que c'était un signe de désescalade plutôt qu'une défaillance opérationnelle. Mais depuis le début de la guerre, il manque toujours plus de 900 millions de barils sur le marché. Ils n'ont pas été remplacés et ils ne sont pas revenus dans les inventaires. Et alors, surtout, probablement qu'ils ne reviendront jamais. Et il faut bien reconnaître qu'un tweet d'un ministre des Affaires étrangères iranien ne fait pas repartir les tankers en 2 heures. Des mines potentielles, des assureurs frileux, un blocus américain toujours en vigueur sur le point théorique et une trêve qui expire le 26 avril, tout ça reste là en petit caractère. Le marché regarde déjà au-delà de ça, en direction d'un scénario de normalisation complète. C'est ce que dit d'ailleurs l'une des meilleures traders en énergie des USA. Elle dit ce qui est le plus probable à court terme, c'est que quelque chose de plus chaotique, des ouvertures partielles, des flux irréguliers, des volumes réels très limités. Traduction, le marché a pricé la fin de la guerre, le marché a pricé l'ouverture du détroit, la fin de la guerre n'a pas encore eu lieu, bon, elle aura sûrement lieu demain si on en croit ce qu'on entend sur les médias. Entre deux, il y a un espace où les choses peuvent mal tourner et où le pétrole ne pourrait peut-être pas revenir aux 20 millions de barils dès lundi matin. Non, parce que c'est juste ce qu'on est en train de presser là tout de suite, mais pour l'instant, tout le monde préfère regarder les records du Nasdaq plutôt que la carte des mines sous-marines dans le golfe Persique. Ce qui est humainement compréhensible, il faut quand même reconnaître que c'est quand même vachement plus chouette, les bull markets. On va s'arrêter une petite seconde, on va respirer un peu. Ça va ? Vous avez respiré ? Non, parce que ce qui s'est passé cette semaine, ça dépasse quand même le simple bilan chiffré. C'est quand même une espèce de leçon de psychologie de marché que vous ne retrouverez dans aucun manuel universitaire, mais que 30 ans d'observation confirment à chaque fois. La semaine du 12 au 18 avril restera probablement dans les annales pour une raison précise. Les marchés ont décidé collectivement d'ignorer la réalité au profit de l'anticipation d'une anticipation. C'est pas une critique, hein, c'est juste une simple description. Parce que si la fin de la guerre est déjà dans les prix, et que la guerre ne finit pas la semaine prochaine, ne finit pas ce week-end, bah, il faudra quand même trouver autre chose, un autre narratif, un autre catalyste. Il y a une chose qui me frappe profondément, je vous l'avoue, quand je regarde la semaine qui vient de se dérouler, les résultats des grandes banques sont bons, les semi-conducteurs sont en forme, l'IA continue d'investir massivement, toutes ces choses sont réelles, elles sont concrètes, elles sont mesurables, et elles constituent des arguments fondamentaux pour un marché haussier. Mais, parce qu'il y a un mais, c'est pas pour ces raisons que les marchés sont montés cette semaine. Ils sont montés parce que Trump a dit qu'on l'avait appelé. Ils sont montés parce que trois bateaux ont passé le détroit. Ils sont montés parce que personne n'avait envie de jouer les pessimistes dans un monde où l'optimisme est aussi contagieux que la grippe en hiver. Perso, ce que j'ai appris en 30 ans, et que cette semaine confirme avec une espèce de brutalité rafraîchissante, c'est que les marchés ne pricent pas la réalité. Ils pricent la perception de la réalité que les autres investisseurs auront dans 48 heures. Et puis comme on aime bien faire les choses tous ensemble, eh bien on se suit. Donc maintenant, ce qui signifie que la seule question qui vaille est, est-ce que le narratif actuel va tenir ? Et non pas, est-ce que la réalité correspond au narratif ? Et le narratif actuel, eh bien, c'est celui-ci. La guerre est finie, l'IA est en bonne santé, les banques font de l'argent et le pétrole va redescendre à 60 dollars. Trois de ces quatre affirmations sont, à ce stade, soit non confirmées, soit clairement fausses. Mais tant que le monde y croit, elles sont vraies dans le collectif psychologique. C'est la bourse, c'est les marchés, et c'est ça qui les rend à la fois fascinants et terrifiants. Et c'est surtout exactement pour ça que depuis 30 ans, je n'ai jamais réussi à m'en lasser. Voici donc les performances de la semaine. Bon, c'est assez simple, hein. Vous voyez, 10,24% sur le Dow Jones des transports, merci aux compagnies aériennes. Le SOX qui reprend 7,5%, le Nasdaq 6,84%, le Bitcoin 5,61%, le S&P 4,54%, le DAX 3,77%, le Dow Jones 3,19%, le Nikkei 2,73%. Bref, vous voyez, tout est en vert. La Suisse, le marché défensif par excellence, ne prend que 1,62%. Et puis derrière, on a le Hang Seng qui est péniblement en hausse, avec la Bovespa qui termine en baisse de 0,8%, et puis surtout le pétrole qui se prend, bien sûr, 13,17% dans les dents sur la semaine. On l'a dit et répété, c'est pas une surprise, mais c'est la bonne nouvelle de la semaine, même si c'est pas sûr qu'on va le ressentir à la pompe. Au niveau des performances sur le marché helvétique, alors vous voyez que la meilleure performance de la semaine, c'est Sika, on va y revenir. Partners Group qui reprend avec le mouvement des softwares puisqu'il s'était fait toller à cause des softwares. Logitech parce que c'est de la tech, Givaudan parce que les résultats étaient bons. Et puis autrement, vous avez UBS parce que la semaine prochaine, le Conseil fédéral va parler. Et puis vous avez ABB qui publiera la semaine prochaine. Richemont qui s'en sort bien malgré le fait que le secteur du luxe soit fait un peu démonter durant la semaine suite aux chiffres de Kering et d'Hermès entre autres. Et puis autrement, eh bien, on a pour le reste que le peloton Swisscom, parce que Swisscom ça intéresse les gens seulement quand le marché est en train de se faire démonter, et Novartis qui pour l'instant, sans aucune nouvelle, recule quand même de 2,4%. Et puis il faut signaler aussi qu'il y a pas mal de titres qui ont été ex-dividendes, on y reviendra aussi tout à l'heure dans la suite de cette vidéo. Du point de vue technique alors, bah c'est assez simple, hein, on a continué le rebond de la semaine précédente, hein, vous voyez que le SMI, eh bien, il continue son chemin, on a clairement cassé l'autre moyenne mobile des 50 jours en vert ici, et puis maintenant si on en croit tout simplement ce genre de situation là, eh bien on est dans un trend haussier et que potentiellement ça peut bouger dans les deux sens et aller rechercher probablement les plus hauts historiques si ça continue dans cette direction. Je vois à l'instant arriver sur mes news qu'a priori l'Iran aurait refermé le détroit d'Ormuz. Je suis en train d'écrire un truc depuis 2 heures et les gars ils font déjà l'inverse. Alors je sais pas si ce sera confirmé, mais en tout cas pour l'instant, si c'est, on reste dans le mode où le détroit d'Ormuz est rouvert, potentiellement que ces prochains temps, la Suisse pourrait retourner aller chercher les plus hauts en direction des 14 000 sur l'indice helvétique. Le S&P 500, youpi, tralala, zimboum. Alors voilà, explosion de l'indice. Hein, donc il n'y a pas d'autre terme. Hein, depuis voilà, le 31 mars, eh bien, ça n'arrête pas de monter. On est passé de 6 300 à 7 126. Donc c'est plus un graphique. Hein. Ce genre de mouvement explosif, on peut se dire que ça a un peu un effet balancier. Donc comme on a eu quand même un mouvement d'une amplitude cadrée dans cette zone-là. Si vraiment ça casse à la hausse encore un peu, on peut remonter facilement en direction des 7 400 sur le S&P 500 pour aller répliquer ce mouvement à la hausse. Le Nasdaq, c'est pareil. En plus, on a laissé des gaps absolument fantastiques ici. C'est quand même génial. Donc, c'est extraordinaire. Mais là aussi, le mouvement est spectaculaire. On est au plus haut de tous les temps. C'est le Nasdaq 100. C'est la même chose sur le Nasdaq composite. Le héros de la semaine, le semi-conducteur en 18 jours. Vous voyez, on est passé de quasiment en dessous des 7 000 à quasiment 10 000. Ça, c'est pour la semaine prochaine, les 10 000. Hein, il n'y a pas de problème. Ça n'arrête pas de monter. C'est explosif. Tout le monde veut des semi-conducteurs. C'est la machine magique de ces prochains mois et de ces prochaines années. De nouveau, hein, encore une fois. Et vous voyez, si on regarde tout simplement depuis le Liberation Day de l'année passée, le semi-conducteur était à 3 390. Aujourd'hui, on est à 9 555. Donc, si je calcule bien, on n'est pas loin d'avoir fait x3 sur l'indice depuis un tout petit peu plus d'une année. Merci, merci, merci Donald Trump. Le DAX a rebondi aussi. On a encore un bout de chemin à faire. Il faut aller chercher les 25 468 sur le DAX pour aller au plus haut historique. De nouveau, on verra comment on continuera l'histoire du pétrole et du détroit d'Ormuz. Suspense, mais si ça continue comme ça et l'accord de paix est signé ce week-end, eh bien, on peut espérer que le DAX retournera assez rapidement au plus haut. Le CAC 40, pareil, on a encore un petit bout de chemin, 8 640, on est à 8 425, là aussi on a tout remonté, on a même été comblé les gaps, on a encore un gap à combler ici, qui pourrait être comblé avec l'accord de paix la semaine prochaine, à confirmer avec les multiples déclarations diverses, contraires et affirmées et désaffirmées dans la demi-heure, qui sont en train de tomber sur les téléscripteurs, mais pour l'instant, la France pourrait aller rechercher les plus hauts de tous les temps. Merci, monsieur Macron. Et puis le graphique du pétrole, alors la bonne nouvelle c'est que comme on a le week-end, au moins il bouge pas, malgré les annonces, donc vous voyez qu'on est revenu en dessous de la moyenne mobile des 50 jours, et on est donc à 80,59 $, on a même été chercher en dessous des 80 en fin de semaine, mais techniquement, je dis bien, on pourrait se dire que là, dans la configuration actuelle, le baril pourrait aller chercher les 70, ce qui serait le support du mouvement actuel haussier sur le baril. Là aussi, il dépendra de l'accord de paix. Par contre, il faut bien comprendre que c'est pas parce que le baril revient à 70 $, un, que ça va baisser à la pompe, et puis deux, que ça va revenir à la normale et que les 20% de barils journaliers vont réapparaître comme par miracle dans le détroit d'Ormuz. Donc ça, c'est affaire à suivre, et je crois pas me tromper en disant que la semaine prochaine, on va en reparler beaucoup. Et l'or repart aussi un petit peu à la hausse. Bon, on a buté sur la résistance à 4 900 pour l'instant sur la moyenne mobile des 50 jours, mais on va aussi dans la bonne direction sur l'or cette semaine. On passe maintenant aux vedettes de la semaine et on commence par Roche avec 3 annonces, 3 coups de poing chez Roche cette semaine. Acte 1, c'est le marquage communauté européenne pour Elexis NFL. Alors derrière ce nom qui sonne un peu comme un mot de passe Wi-Fi, eh bien c'est un test sanguin capable de détecter la neuro-inflammation chez les patients atteints de sclérose en plaques. Concrètement, ça veut dire que c'est fini l'IRM systématique. Bonjour la prise de sang en pharmacie du coin. Un simple prélèvement, des résultats standardisés sur des machines cobas déjà installées partout en Europe. La FDA l'avait déjà qualifié de breakthrough device en 2023. L'Europe vient de dire oui. Un marché énorme, des patients soulagés et un bel argument commercial pour Roche. L'acte 2, c'est Elevidys qui relance la machine. Après s'être pris un non ferme de l'Europe en juillet dernier, Roche remet le couvert avec une étude de phase 3 sur sa thérapie génique contre la dystrophie musculaire de Duchenne. 100 patients, 72 semaines contre placebo. Objectif, convaincre l'Europe que le traitement tient la route. Et puis, Sarepta gère les États-Unis et Roche s'occupera du reste du monde. Plus de 1 200 patients sont déjà traité et l'enjeu est donc colossal avec un cas. Acte 3, chéquier ouvert via la Fondation Médecine. Roche rachète l'américain Saga Diagnostic, prix du ticket jusqu'à pratiquement 600 millions de dollars. La cible, c'est un test de détection de l'ADN tumoral circulant pour repérer les récidives de cancer avant qu'elles fassent trop de dégâts. Bilan pour Roche, c'est un mode Kinder Surprise, hein, diagnostic, thérapie, génique, oncologie, trois chocolats dans la même semaine, dans le même package. Le titre prend 1,39% sur la semaine, comme c'est excitant! Ça vaut pas une telle quand même. Voilà le graphique de Rush. C'est, pour l'instant, je serais pas surpris qu'un de ces quatre, le bon Rush, vienne casser à la hausse et retourne en direction de la moyenne mobile des 50 jours dans un premier temps. Pour l'instant, ça montre vraiment le truc que ça, quand ça veut pas, ça veut pas. Parce que là, il y a des bonnes nouvelles depuis deux semaines. Le titre ne fout strictement à rien. Mais voilà, pour l'instant, on va dire qu'on fait une congestion avec l'espoir qu'on ait enfin une accélération haussière un de ces jours. Sika, ou quand un chiffre d'affaires en baisse fait bondir l'action de 8%. Bienvenue dans le monde merveilleux de la bourse où tout est affaire de comparaison et d'interprétation. Le spécialiste balois des matériaux de construction a publié son Q1 2026 cette semaine. Chiffre d'affaires 2,49 milliards de francs, en recul de 7%. Sur le papier, ça fait mal. En réalité, les analystes attendaient bien pire. Et surtout, la croissance organique qui est à moins 0,2% contre moins 1,8% attendu. Traduction, Sika tient la route. Le coupable du recul, eh bien, c'est le franc suisse, bien sûr, toujours lui, qui a grignoté 213 millions de recettes à lui tout seul. Merci la force du franc face au dollar et aux monnaies asiatiques. L'Asie-Pacifique cartonne, l'Europe redémarre, les Amériques souffrent, la faute aux tempêtes hivernales qui ont gelé les chantiers, et cerise sur le gâteau, pendant que la concurrence galère avec les problèmes d'approvisionnement liés à la guerre au Moyen-Orient, Sika grignote des parts de marché grâce à sa supply chain en béton armé, sans mauvais jeu de mots. Résultat, 8% de hausse, perspective confirmée, analyse rassurée parce que c'est moins pire, c'est plutôt satisfaisant pour Sika. Alors, vous le voyez que depuis deux semaines, c'est la fête au village chez Sika, puisque là aussi, le 30 mars, on a fait notre point bas à 124 francs suisses, et on est à 157. On parlait il y a quelques temps de cette cassure de la moyenne des mobiles des 50 jours. C'est plutôt pas mal. Si on continue comme ça, on va finalement avoir une espèce d'inversion des deux moyennes. Là, on est vraiment dans une tendance baissière, vous le voyez. Et quand ça va commencer à se rapprocher, on va avoir une tendance haussière qui redémarre. Donc, les choses ont l'air d'aller un petit peu mieux chez Sika, d'un point de vue fondamental, mais aussi d'un point de vue technique sur le graphique, en tous les cas. Givaudan sentait bon cette semaine, et pas qu'au sens propre, puisque le géant genevois des parfums et des arômes a publié son premier trimestre 2026 également, et l'action décolle de plus de 7% sur la semaine, plus haut niveau depuis plus d'un mois. Croissance organique de 2,8% contre 1,9% attendu par le consensus, c'est mieux que prévu, mais soyons honnêtes, on est loin des 7,4% de l'an dernier. La fête ralentit, mais la fête continue. Le moteur, c'est la division parfumerie et beauté. Elle signe plus 5,9%, pulvérisant les attentes à 4,1%. Parfum fin, soins personnels, entretien de la maison, tout cartonne. JP Morgan y voit même un signal positif pour L'Oréal et Puig. Bonne nouvelle pour tout le secteur du luxe olfactif. Le bémol, c'est la division goût et bien-être, qui recule de 0,4% avec une vraie claque en Asie du Sud, Moyen-Orient et Afrique, moins 7,1%. Et le franc suisse, toujours le franc suisse, moins 9,2% d'effet de change, qui plombe les ventes publiées à 1,88 milliards, en recul de 5,2%. La parade, eh bien, des hausses de prix en 2026 pour compenser. JP Morgan, encore eux, parie sur une accélération progressive. Voilà, un peu à l'image de Sika, ben joli rebond chez Givaudan. Voilà, on a fait notre plus bas au mois de mars, et puis on repart à la hausse, donc on a repris quand même quasiment 500 balles depuis les plus bas sur le titre. On a cassé la moyenne mobile des 50 jours, et là aussi, comme tout à l'heure je vous le montrais, cette tendance descendante qui persiste depuis un moment pourrait bien finir à un moment ou à un autre à s'inverser. Alors attention, on nous a déjà fait le coup il y a quelques temps, en septembre-novembre, là il faudrait qu'on confirme d'une manière un peu plus longue, mais tout devrait bien se passer puisque la paix sera signée ce week-end, bien sûr. VAT Group maintenant, ou l'art de faire le grand écart, parce que là aussi les chiffres du premier trimestre ont été publiés. D'un côté les commandes explosent, de l'autre le chiffre d'affaires s'effondre. Le groupe Saint-Gallois, spécialiste des vannes à haut de gamme pour l'industrie des semi-conducteurs, a vu ses entrées de commandes bondir de pratiquement 50% sur une année. Et la seule activité, celle semi-conducteur, représente 64% de hausse à 271,5 millions. La reprise du secteur amorcée fin 2025 n'était donc pas un mirage, c'est carrément du solide. Un carnet de commandes gonflé à 384 millions, un quart de plus, la demande est là, bien présente, et le chiffre d'affaires, grosse claque. Par contre, la division Valve recule de 26,7%, les semi-conducteurs de 28,2% et Advanced Industrial lâche 19,2%. Bah, le coupable, par contre, il est connu, c'est la guerre au Moyen-Orient qui a désorganisé les chaînes d'approvisionnement et qui a donc fait péter les délais de livraison. D'ailleurs, VAT avait fait un profit warning fin janvier, si vous vous souvenez. En gros, les clients commandent, mais VAT n'arrive pas à livrer. Le chiffre d'affaires de demain est donc dans le carnet de commandes d'aujourd'hui. Mais bon, on s'en fout, parce que la guerre est finie. Alors ça va cartonner. D'ailleurs, VAT a cartonné cette semaine. Pour les fondamentaux, il faudra donc patienter un petit peu, mais le pipeline, globalement, est là. Et c'est ça qui compte, et aussi un peu la paix dans le monde et dans les chaînes d'approvisionnement. Voilà. Un graphique qui se passe de commentaires, c'est exactement le même que les autres graphiques de Sika ou que je vous ai montré tout à l'heure ou de Givaudan, sauf que là c'est Bull Market et compagnie, on a déjà fait l'inversement de tendance, et vous voyez que depuis septembre 2025, avec un point bas à 249, où on a fait un espèce de double bottom dans cette zone-là, eh bien le marché a littéralement explosé de 250 à 592, merci l'environnement des semi-conducteurs. D'un point de vue purement technique, et aujourd'hui c'est difficile de mettre des targets, hein, parce que là on voit que le mouvement amorcé est juste absolument monstrueux, un peu à l'image de ce qu'on avait fait à l'époque dans les années 2022, vous voyez ce mouvement-là. Et là, on est en train de faire plus ou moins le même mouvement qui devrait nous entraîner un peu plus haut. On voit que l'amplitude est différente. Franchement, à cette vitesse-là, je ne serais pas étonné que dans quelques mois, on arrive à 700 balles si ça continue dans la bonne direction au niveau des semi-conducteurs, évidemment. On passe maintenant au en vrac de la semaine. Alors d'abord, le groupe Sulzer a enregistré des entrées de commandes en nette baisse de 8,8% au premier trimestre à 853 millions de francs suisses. Le spécialiste Georg Fischer, spécialiste de la tuyauterie, a décroché un contrat de 100 millions dans le secteur de l'eau au Brésil. Burkhalter a vu sa cadence de croissance plafonner à 1,8% l'an dernier après 5,4% en 2024. Polypeptide s'est envolé sur des rumeurs d'acquisition. Selon un article du Bloomberg, des sociétés comme EQT ou KKR et Advent International tourneraient autour de la boîte Zugwas. Comet a vu ses entrées de commandes gonfler au premier trimestre 2025. Sicor a enregistré une forte croissance au premier trimestre grâce à un solide carnet de commandes et ils ont gagné de nouveaux clients. Kuros a gonflé son chiffre d'affaires au premier trimestre 2025. Sensirion a présenté sa stratégie et ses objectifs de croissance à l'occasion de la journée des investisseurs. L'UBS a tenu son assemblée générale mercredi et Hermoti a indiqué que l'intégration du Crédit Suisse était en cours d'achèvement d'ici la fin de l'année. On précisera aussi que le Conseil fédéral devrait statuer la semaine prochaine sur les exigences des fonds propres pour les banques. Le suspense est insoutenable. Helvetia Baloise a réalisé un bénéfice sous-jacent de 1,03 milliard et on entend biffer entre 2000 et 2600 jobs d'ici 2028. MindMaze Therapeutics, la société née en décembre dernier de la fusion de Relief Therapeutics et du vaudois NeuroX, est active dans les techno de la santé, a achevé 2025 avec une perte de quasiment 10 millions de francs suisses. Cosmo Azurich a présenté une étude positive sur sa solution contre la calvitie masculine. Stadler a décroché des commandes de deux villes du Land allemand de Saxe pour un total de 14 nouveaux trams surbaissés, avec le spoiler derrière de type Tina. Barry Calbo s'est pris une grosse claque cette semaine. Le grossiste en chocolat et cacao a enregistré une baisse de ses résultats au premier semestre à cause de la fonte du prix du cacao et un programme de relance qui devrait, on espère quand même, soutenir sa croissance future. En tout cas, c'est son nouveau patron, Heinz Schumacher, qui le dit, mais qui pointe aussi des problèmes d'ordre structurel. Bistronic est confronté à une persistante réticence de ses clients à investir. Chiffre d'affaires et entrée de commandes sont étiolés et s'avère nettement inférieur aux attentes des analystes. Doc Morris a étoffé ses revenus de 7,3% et monté en bourse cette semaine. Sa perte opérationnelle ajustée a été réduite de 9,8 millions à 6,3 millions. Bioversis a profité quant à lui de l'annonce d'une étude clinique de phase 3 décisive pour le dépôt d'une demande d'homologation sur son traitement expérimental le plus avancé. C'est un antibiotique qui s'appelle BV100. Gurit a essuyé une baisse de 10,9% des recettes au premier partiel. La force de la monnaie suisse, l'influence de l'activité non poursuivie ont pesé sur les ventes. À taux de change constant, la baisse du chiffre d'affaires n'est néanmoins que de 2,2%. Et puis la cloche de la bourse a sonné pour Sentiel, anciennement HT5, qui fait ses premiers pas sur SIX en tant que nouvelle société. La fusion entre HT5 et Sentiel, une entreprise d'électronique établie à Lugano, avait été annoncée en mars dernier. En 2025, Sentiel a réalisé un chiffre d'affaires de 46 millions et un bénéfice d'exploitation de 10,3 millions. Plusieurs titres ont été traités ex-dividendes cette semaine. On notera entre autres des boîtes comme Sulzer, Tecan et Georg Fischer. Voilà, c'est plus ou moins ce qui s'est passé de notable cette semaine. Alors maintenant, la vraie question, et après, la semaine qui arrive va être ce qu'on appelle dans le métier une semaine de vérité, pas parce qu'on attend des chiffres extraordinaires, mais parce que le marché vient de monter de manière spectaculaire sur des promesses, et que les promesses vont maintenant devoir commencer à se transformer en fait. Premier enjeu, et de loin le plus important, le 26 avril, le cessez-le-feu entre Israël et le Liban, qui expire ce jour-là, et c'est le cessez-le-feu qui conditionne l'ouverture du détroit d'Ormuz, selon les Iraniens eux-mêmes. Alors ils ont annoncé l'ouverture, là il semblerait qu'ils annonceraient la refermeture, bref, si les discussions n'aboutissent pas à un accord global, ou au minimum à une prolongation formelle de la trêve, le scénario catastrophe reste quand même sur la table. Trump a dit que le deal serait conclu très rapidement, il a dit la même chose 12 fois avant, mais peut-être la 13e sera la bonne. Et les Libanais publient partout des communiqués qui disent qu'ils ont repris le contrôle et que tout va bien. Ça n'a jamais été aussi bien au Liban si on en croit ces communiqués de presse. Le cessez-le-feu entre les Américains et les Iraniens prendra la fin le 22 avril. Mais là aussi, comme la paix devrait être réglée ce week-end, on s'en fout. Deuxième enjeu, la confirmation de Kevin Warsh au Sénat le 21 avril. Le successeur désigné de Powell passe devant la commission bancaire du Sénat avec une majorité de 13-11, mais il suffira donc d'un sénateur républicain récalcitrant pour bloquer l'ensemble du processus. Et Tom Tillis, républicain, a déjà annoncé son opposition tant que l'enquête visant Powell n'est pas résolue. Une Fed sans patron, avec un intérimaire qui n'a pas vraiment ou plus vraiment envie d'être là, dans un contexte de crise géopolitique et d'inflation encore un petit peu sticky, eh bien c'est exactement ce genre de cocktail que les marchés obligataires adorent transformer en crise avec trois tweets. Pour peu qu'on oublie qu'il y a eu encore la guerre et qu'on pense à autre chose, ça pourrait être ça. Troisième enjeu, la saison des résultats qui s'accélère. Cette semaine, c'est Tesla qui passe à la machine le 22 avril. Musk est en plein délire créatif entre l'annonce de la puce AI5, SpaceX et ses allers-retours avec la Maison Blanche. Le titre a repris 25% depuis son plus bas. La guidance sera scrutée à la loupe. Intel publiera le 23 avril et avec 60% de hausse sur 6 semaines, les attentes implicites sont à peu près ici. TSMC publiera ses résultats sur les carnets de commandes et ils donneront une lecture précieuse sur l'appétit réel de l'industrie. Et si la demande est aussi solide que ce que ASML laisse entendre cette semaine, le SOX a encore de la marge, on peut aller à 15 000 facilement. Et si ce n'est pas le cas, le retour de bâton pourrait être brutal. En gros, sur les chiffres de la semaine, il y aura Tesla, IBM, Intel, Texas Instruments, ServiceNow, Lam Research, Vertiv, Elevance Health, Boston Scientific, Boeing, 3M, Freeport McMoran. Ça, c'est pour les States. Et puis en Europe, on aura Arista, Chubb, Thales, L'Oréal, ABB, Essilor, Danone, Roche, Nestlé, SAP, Sanofi et Orange. Cette semaine aura donc été extraordinaire. On est passé de « le monde s'effondre et le pétrole va à 200 » à « record historique et bull market à gogo en 5 jours » sur la base d'un tweet, d'un coup de téléphone présidentiel dont personne ne peut vérifier la véracité et d'une conviction collective que cette fois, Trump dit la vérité et que cette fois, la paix, c'est pour demain. C'est peut-être vrai, peut-être que la 13e fois sera la bonne, peut-être que le deal avec l'Iran est imminent, que le pétrole va effectivement redescendre à 60, même à 45$, que l'inflation va refluer, que la Fed va baisser les taux et que le S&P 500 va aller chercher les 8000 points d'ici la fin de l'année ou peut-être même le mois prochain. Ouh, tout ça, c'est possible et tout le contraire est aussi possible. Ce que je sais avec certitude, c'est que quand tout le monde est d'accord, c'est souvent que quelque chose va changer ou pourrait changer. Quand les records s'accumulent sur les anticipations plutôt que sur les fondamentaux, c'est qu'il faut regarder et qu'il faut garder les yeux ouverts. Et quand Trump dit que tout va bien, c'est le moment de vérifier vos positions deux fois plutôt qu'une. L'indice Greed and Fear est de nouveau dans la zone d'avidité. Étant un indice contrariant, on sait que ça devient un glissant, tout comme celui de la volatilité, le fameux VIX, qui revient sur des niveaux que l'on connaît d'extrême confiance. Et qui là aussi est une zone glissante pour les acheteurs. Cette semaine nous a appris donc une chose, une seule, c'est que dans les marchés de 2026, la seule chose prévisible, c'est l'imprévisible. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker la vidéo, de la commenter et de la partager. Nous on se retrouve lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live et pour parler de l'accord de paix, de l'ouverture et de la fermeture et de l'ouverture et de la fermeture et de l'ouverture et de la fermeture du détroit d'Ormuz et de l'heure à laquelle les Iraniens vont atterrir à Washington mardi pour signer la paix ou pour péter la gueule à Donald Trump. Passez un bon week-end, moi je vais me battre avec une côte de bœuf et on se voit lundi à la première heure. Bye bye!
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.